Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Hausse des salaires, réorganisation de l'hôpital, de son financement, de sa gouvernance. Les sujets de discussion ne manqueront pas dès cet après-midi au Ségur de la Santé. Le gouvernement lance une grande concertation de 2 mois avec les acteurs du secteur. Un énième plan, mais pour quelle efficacité? Les attentes sont à la hauteur du malaise, vous l'entendrez.
La France fait partie des quelques pays de l'Union européenne où les soignants gagnent moins que les autres travailleurs. Nous ferons un tour chez nos voisins pour voir les différences de traitement.
À suivre encore, les difficultés qui persistent pour vivre chez les jeunes malgré le déconfinement. Et puis à l'étranger, le coronavirus frappe durement le Yémen, déjà en proie à l'une des pires crises humanitaires et à la guerre.
Au Brésil, alors que la pandémie continue de progresser à un rythme toujours plus inquiétant, l'attention du pays est accaparée par une vidéo accablante pour Jair Bolsonaro et sa volonté d'interférer dans les affaires judiciaires.
Y aura-t-il un remaniement pour incarner la relance après la crise? En tout cas, depuis ce week-end, les prétendants à Matignon s'activent. C'est le thème du billet politique de Frédéric Seyss juste après ce journal. Que réserve donc le Ségur de la Santé? La concertation commence aujourd'hui entre le gouvernement et les professionnels de l'hôpital et des EHPAD pour améliorer leurs conditions de travail et la rémunération des soignants. Le ministre de la Santé, installé rue de Ségur, prévoit une revalorisation notamment des salaires des infirmiers et infirmières. Pour André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, les discussions risquent d'être très compliquées. Car avant même de convoquer une grand-messe, il y a, d'après lui, un certain nombre d'actions urgentes à entreprendre.
1. Les salaires doivent être augmentés pour atteindre les moyennes de l'OCDE. Il faut le dire clairement, il faut chiffrer. Il faut que les heures supplémentaires soient payées, car autrement, le personnel va partir. Avant la crise du Covid, il y avait 800 postes d'infirmières à l'assistance publique qui n'étaient pas pourvus. Avant l'épidémie de Covid, il y a eu l'épidémie de bronchiolite, où faute de lits et faute d'infirmières, on a transféré des dizaines de nourrissons en ambulance réanimatoire à plus de 200 km de Paris. C'était en novembre 2019, c'est pas... Donc c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'embauche et de la formation dans les EHPAD comme dans les hôpitaux. On ne peut pas continuer à dire qu'il faut une infirmière pour 13 lits ou une infirmière pour 15 lits, alors que pour le Covid, évidemment, il fallait donner un quota. En fonction de la charge de travail, combien faut-il de personnel présent? Troisièmement, on avait des projets dont le dogme était la diminution des lits. L'hôpital Nord de Paris, c'est 30% de lits en moins. Enfin, Martin Hirsch disait quand même que le modèle d'hôpital du 21e siècle, c'est l'Hôtel Dieu avec sa galerie marchande. C'est-à-dire ressemblant à une gare. Alors, est-ce que c'est ça le modèle après Covid-19? Et alors, je remarque dans le discours, dans celui-ci qui convoque le Conseil des ministres, ce Ségur de la Santé, comme dans Ma Santé 2022, le mot service public n'est pas prononcé. Donc, je pense qu'avant de faire un Ségur, ça veut dire des commissions qui vont durer 1 mois, 2 mois, il y a un préalable, je dirais, qui est le préalable de restaurer la confiance.
Difficile, on le comprend, de renouer le dialogue, de calmer la colère des soignants et de panser les maux de l'hôpital public. Voilà plus d'un an que les personnels manifestent pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. L'augmentation des salaires sera l'un des chantiers les plus délicats. Il est vrai qu'en France, les infirmières, par exemple, sont particulièrement mal payées, comme en témoigne Victoire, une infirmière de 49 ans que Tarache Légal a pu rencontrer.
Victoire, en ce moment, fait les nuits à l'hôpital Bichat. Avant, elle était aux urgences, en province. Elle a 24 ans d'expérience, se dit privilégiée et pense surtout aux jeunes qui débutent à 1400 euros.
Alors effectivement, c'est pas la même ancienneté, on est bien d'accord, c'est pas la même expérience non plus, mais elles ont les mêmes responsabilités, même charge de travail. Alors, comme je dis souvent à mes jeunes collègues, on n'est pas des fleuristes, on n'est pas des plombiers, on a la vie des gens entre nos mains. Si vous vous trompez dans un calcul de dose au niveau de vos médicaments, si vous ne savez pas les surveillances correctes qu'il y a à faire, c'est le patient qui va en pâtir. Au mieux, il va faire une petite allergie qu'on pourra rectifier. Au pire, on peut l'envoyer au cimetière. Donc oui, on a choisi, on sait très bien qu'on va avoir, qu'on aura ce genre de responsabilité-là. Mais la pénibilité et la charge mentale que ça entraîne, c'est pas pris en compte.
La pénibilité, c'est le travail de nuit. L'hôpital un week-end sur deux, renoncer aux jours fériés et des choses plus tangibles.
Quand vous êtes deux pour manipuler des patients qui font entre 50 et 100 kilos, voire beaucoup plus que 100 kilos, ça peut arriver. C'est un métier qui est majoritairement féminin. Donc c'est des charges lourdes que nous manipulons. Ce sont des brancards aussi qu'on pousse, des cartons qu'on charrie et qu'on manie. Il y a tout un travail qui ne se voit pas et qu'on minimise et qu'on invisibilise. C'est pas normal.
Pas normal non plus qu'un tiers de son salaire soit versé sous forme de prime, invisible au moment de la retraite. Et si elle a pu quitter la province pour s'installer à Clichy, près de Paris, c'est parce qu'elle partage son logement.
Moi, je fais partie des privilégiés parce que moi, j'ai une longue carrière qui est déjà derrière moi. J'ai un bon salaire, j'ai une reprise d'ancienneté. Ma compagne, elle travaille, elle est prof. Et je me dis, ouais, à deux, on va s'en sortir, hein. Très bien. Toute seule, revenir à Clichy, ça aurait juste pas été possible. J'aurais pas pu avoir un appartement comme celui qu'on a.
Un appartement de 36 mètres carrés.
Un reportage signé Tara Schlegel. Comment l'hôpital français en est arrivé là? Retour sur les principales décisions qui ont mené l'hôpital à la crise. C'est un article à retrouver en une sur franceculture.fr. Les salaires, on l'aura compris, l'un des nerfs de la guerre, surtout si l'on compare avec nos voisins, Elives Delève.
C'est simple, qu'on prenne les chiffres au niveau européen ou les chiffres de l'OCDE qui englobent tous les pays développés, la France est en bas de classement. Les infirmiers hospitaliers français gagnent moins que leurs voisins, 2070 euros net par mois contre 2380 en Allemagne et 2600 en Espagne. Pire, la France fait partie des quelques pays de l'Union européenne où les soignants gagnent moins que les autres travailleurs, 6% de salaire en moins par rapport à la moyenne nationale, alors qu'en Espagne, les infirmiers et infirmières gagnent presque 30% de plus que les autres travailleurs, 18% en Grèce et 5% en Italie. Une prime, même de 1500 euros, proposée par Emmanuel Macron est donc loin du compte. Il faudrait au moins 300 euros par mois, selon les syndicats. Concernant le temps de travail, certains estiment que si les soignants allemands, par exemple, sont mieux payés, c'est qu'ils travaillent plus. Certes, la semaine est de 40 heures outre-Rhin, mais la rémunération à l'heure reste supérieure à celle de la France.
Un plan hôpital, quel prix pour la santé? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin ce soir à ses invités, économistes, sociologues et philosophes. Ce sera dans le temps du débat à partir de 18h15 sur France Culture. Mais pour l'heure, il est 8h06. Il y a ceux qui peinaient déjà à s'en sortir financièrement, ceux qui ont perdu les revenus que leur apportait leur stage ou leur petit boulot arrêté par le confinement. De nombreux jeunes se retrouvent encore en grande difficulté en cette troisième semaine de déconfinement, avec toujours moins de rentrées d'argent que d'habitude, mais plus de dépenses, notamment pour se nourrir chez soi. Explication de Catherine Pétillon.
Très vite, des jeunes en situation particulièrement difficile se sont présentés. À Lyon, l'épicerie solidaire et sociale Aguarae permet d'habitude aux étudiants les plus précaires d'acheter nourriture et produits d'hygiène à très bas prix. Dès le 9 avril, elle a lancé des distributions gratuites de paniers et les demandes ont afflué, raconte Yanis Liman, le président de l'association étudiante Gaïs.
Quand on a commencé à ce dispositif, on avait à peu près 450 personnes, donc finalement on s'est retrouvé très rapidement submergé. Là, on est à peu près à 1000 demandes. Et en fait, on se rend compte que les étudiants, le peu de réserves qu'ils pouvaient avoir au niveau financier, ils ont été obligés de les utiliser début avril, fin avril, parce que beaucoup qui avaient un travail ou un stage rémunéré n'avaient plus en fait cette source de revenus d'argent. La précarité pendant le confinement, elle a fait augmenter.
Le gouvernement a mis en place une aide de 200 euros versée une fois aux étudiants ayant perdu leurs revenus. Une aide est aussi prévue en juin pour les moins de 25 ans non étudiants, mais à certaines conditions. Un geste attendu, mais insuffisant vu la situation, regrette Orlane François, la présidente de l'organisation étudiante LAFAGE.
Les principales demandes, c'est qu'elle soit renouvelable, cette aide, et que son montant soit réévalué. Et puis ensuite, pour les jeunes qui ne sont pas étudiants, la porte d'entrée, du coup, ça a été de choisir des APL. Le problème, c'est qu'on a de nombreux jeunes en difficulté qui ne sont pas bénéficiaires des APL, qu'ils n'ont même pas les moyens d'avoir un logement autonome. Donc, ils sont logés par des amis, par de la famille, ou bien ils sont à la rue. Et donc, ces jeunes-là qui sont dans la difficulté, eux, ils n'ont rien. Donc là, nous, notre demande d'urgence, c'est d'ouvrir le RSA en urgence aux jeunes de moins de 25 ans.
Cela faisait partie des réflexions autour d'un futur revenu universel d'activité désormais repoussé. Or, toutes les associations alertent, elles, sur les difficultés que risquent de rencontrer très rapidement les jeunes pour trouver un emploi, payer leur loyer ou se nourrir.
Pauvreté, chômage, aide alimentaire, comment endiguer la crise sociale? Vous poursuivez la discussion, Guillaume Erner, dans la deuxième partie des matins à 8h20 avec votre invité Christophe Robert, sociologue et délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Un coup de pouce supplémentaire pour les commerces et les entreprises qui ont été les plus durement touchés par la crise sanitaire, particulièrement dans le secteur du tourisme ou de la restauration. Gérald Darmanin a annoncé hier qu'il bénéficierait de 3 ou 4 mois d'exonération de cotisations sociales selon les cas. Le ministre de l'Action des Comptes Publics chiffre le manque à gagner à 3 milliards d'euros pour les caisses de l'État. Mais au total, cela devrait profiter à près de 500 000 entreprises alors que l'on attend dans les prochains jours les détails de la deuxième phase du déconfinement. En jeu notamment la saison estivale et la réouverture des restaurants et des bars en zone verte à partir du 2 juin.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Déjà en proie à l'une des pires crises humanitaires, le Yémen, frappé par une guerre depuis 2014 entre rebelles houthis soutenus par l'Iran et la coalition menée par l'Arabie Saoudite, eh bien le Yémen n'est pas épargné par le coronavirus.
Et Médecins sans frontières appelle les Nations Unies et les pays donateurs à débloquer une aide d'urgence. MSF ne dispose que d'un centre de soins à Aden, avec une centaine de lits. C'est l'unique structure consacrée au Covid-19 dans le sud du Yémen. Les autres hôpitaux locaux refusent d'accueillir des malades présentant des symptômes de la maladie, faute d'équipement de protection pour les soignants. Valérie Crova a joint Marc Chacal, responsable adjoint du programme Yémen pour Médecins sans frontières.
On a réussi à ouvrir notre centre à Aden il y a à peu près 2 semaines. Et il y a quelques jours, on avait déjà 178 admissions et presque 70 décès, ce qui est énorme. Hein. Ça, c'est un taux de mortalité d'à peu près 30% dans notre centre. C'est très inquiétant parce qu'on a très peur de l'effet dévastateur de cette épidémie dans un pays comme le Yémen, dont le système de santé est déjà affaibli par le contexte. Et on est, sans exagérer, débordé. On craint vraiment que ce qu'on voit dans notre centre est que le sommet de l'iceberg, comme on dit, parce que dans la communauté, on a très peur qu'énormément de gens ne puissent pas arriver jusqu'au centre de soins avec des risques de propagation autour du décès qui sont importants, de l'enterrement. Et alors dans la presse locale, on a lu qu'ils ont enregistré plus de 800 décès dans la ville d'Aden depuis le début du mois de mai. Il faut vraiment appeler à du renfort en ressources, en moyens, en argent, en personnel. Il faut que les autorités facilitent tout ça, parce que je pense que la population va vraiment en souffrir et en mourir.
Marc Chacal, responsable adjoint du programme Yémen pour MSF, joint par Valérie Crova. La pandémie a fait au moins 343 205 morts depuis l'apparition du virus en décembre dernier en Chine. Les États-Unis, le pays le plus touché en valeur absolue avec près de 98 000 décès, suit le Royaume-Uni avec près de 37 000 morts. Le Royaume-Uni où le Premier ministre Boris Johnson a décidé de soutenir finalement hier son conseiller spécial Dominic Cummings, malgré ses déplacements à plus de 400 km de Londres alors qu'il avait des symptômes du coronavirus. Malgré les critiques et les appels à la démission de Cummings, Boris Johnson n'a pas cédé aux pressions. Lui aussi a bravé les règles de distanciation physique. Le président brésilien Jair Bolsonaro a participé hier à un rassemblement avec ses partisans en brassade sans masque à l'heure où l'épidémie progresse en Amérique latine et dans les Caraïbes. Jair Bolsonaro, critiqué par ailleurs par ses opposants pour une vidéo qui a fuité où le président brésilien tente d'interférer illégalement dans les enquêtes policières visant certains de ses proches. À Rio, les précisions de Jean-Mathieu Albertini.
Pendant près de 2 heures, c'est un concentré de grossièreté et de théories du complot farfelues. Mais on y voit aussi un plan clair pour s'attaquer à la législation environnementale. De bout en bout, la vidéo de la réunion ministérielle du 22 avril est accablante. Surtout le passage où Jair Bolsonaro affirme fulminant sa volonté d'interférer dans les affaires judiciaires qui concernent ses proches.
Je ne vais pas attendre qu'il nique toute ma famille ou des amis à moi, parce que je ne peux pas changer quelqu'un de la sécurité en bout de chaîne d'une de nos structures. Je vais le changer. Et si je ne peux pas le changer, je change son patron. Et si je ne peux pas changer son patron, je change carrément le ministre.
Même si elle corrobore les accusations contre le président, pas sûr que cette vidéo lui porte un coup fatal. Elle a même été plutôt bien reçue chez ses soutiens les plus fanatiques. Pour le moment, elle n'a donc pas bouleversé l'équilibre politique qui maintient encore Jair Bolsonaro au pouvoir. Reste que c'est un coup dur de plus pour un gouvernement qui s'affaiblit de jour en jour. C'est aussi une vidéo très inquiétante pour le Brésil, car à l'époque, le pays comptait déjà presque 3000 victimes du Covid-19. Et pourtant, au cours de cette réunion, le sujet n'a quasiment pas été abordé.
Direction les États-Unis à présent, dans les couloirs du Congrès américain, le Capitole de Washington, où siègent le Sénat et la Chambre des représentants. En temps normal, près de 30 000 personnes travaillent chaque jour dans ce temple de la démocratie américaine. Mais depuis plus de 2 mois, le US Capitole est quasi désert, comme a pu le constater Grégory Phillips.
Même le petit métro souterrain, il y a 3 lignes qui relient notamment le Sénat à la Chambre des représentants. Même ce métro est vide. Gareth Hack est le correspondant au Congrès de la chaîne MSNBC.
C'est un sentiment assez surréaliste. Un jour normal ici, il y a non seulement les élus, mais aussi les reporters, les staffs, les policiers. Il y a des restaurants, c'est une vraie petite ville. Sauf que maintenant, comme dans la plupart des villes américaines, presque tout est fermé. Tout ce qui fait l'énergie de Capitol Hill n'existe plus, c'est vraiment différent.
Les élus travaillent depuis leur circonscription ou alors de manière beaucoup plus rare, en session plénière pour voter un énième plan de relance économique. 49 sénateurs sur 100 ont plus de 65 ans et sont considérés comme une population à risque. À la Chambre, la moyenne d'âge des représentants est un peu plus basse, mais la speaker, la démocrate Nancy Pelosi, nous explique qu'elle ne fera pas rentrer tout de suite les 435 élus de la Chambre basse.
C'est difficile pour moi de répondre à votre question, mais dès que possible, on s'y prépare. Et ce sont la science et les docteurs qui apporteront cette réponse.
La science, comprenez, le médecin du Congrès, décidera. L'allusion à Donald Trump est évidente. Même dans un Capitole désert et au ralenti, personne n'oublie qu'on est à 5 mois des prochaines élections présidentielles et parlementaires.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Les États-Unis qui plébiscitent les visites même virtuelles du Louvre, le musée qui a multiplié son offre sur Internet et sur les réseaux sociaux, a enregistré 10,5 millions de visites au total depuis le début du confinement. Le temps de ce lundi 25 mai, de plus en plus ensoleillé au fil des heures, les températures sont en hausse, comprises au meilleur de la journée, entre 18 et 23 degrés près de la Manche et dans l'Est, comptez de 22 à 27 degrés du nord jusqu'au sud-ouest et jusqu'à 29 près de la Méditerranée.